Bienvenue sur Horizon. Quand un bouleversement offre de nouveaux possibles. Une émission présentée par Justine et RL, un mardi par mois, de 20h à 21h, sur le 103 FM de Radio Campus Angers. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue sur Horizon, je suis avec RL.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous accueillons Hector.
Bonjour.
Hector a 19 ans, il est originaire de Bretagne et nous l'avons rencontré l'année dernière lorsqu'il a intégré l'école des Beaux-Arts à Angers. Et aujourd'hui, il va nous raconter comment des échecs ont pu bouleverser sa vie. Hector, t'étais comment enfant ?
Avec mes parents, j'étais quelqu'un de très colérique et très compliqué à vivre au quotidien, je pense. Enfin, c'est le retour que je fais actuellement. Et par contre, j'étais une personne totalement différente quand j'étais avec des personnes extérieures à la famille et particulièrement à mes parents. J'étais toute autre personne, un peu plus réservée et timide.
Est-ce que tu aurais une anecdote un peu de... toi, en colère, enfant?
Oui. Comme je faisais beaucoup de colère, des fois, je pétais complètement un cap dans ma tête. Et je sais que une fois, j'avais séparé les jouets que mes parents m'avaient offerts et les jouets qu'on m'avait offerts par d'autres personnes. Et j'avais dit à mes parents que ces jouets-là, je les voulais plus. Et pendant plusieurs jours, je jouais plus du tout avec. C'était dans un coin de ma chambre, je voulais plus y toucher. Enfin, je voulais plus en entendre parler. Et ça montrait vraiment le contraste que j'avais entre la relation avec mes parents et avec les autres.
Horizon, un mardi par mois, sur le 103 FM de Radio Campus Angers. Au lycée, tu intègres sport-études et le rugby prend une place importante dans ta vie. Finalement, à la sortie du lycée, tu intègres l'école des Beaux-Arts et t'intéresses à l'architecture d'intérieur. Ce sont des échecs auxquels tu as fait face qui ont déterminé tes choix de parcours. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais un peu définir l'échec ?
L'échec en soi, pour moi, enfin, on le connaît souvent en tant qu'un mot péjoratif. On donne souvent l'exemple de subir un échec et quand on subit quelque chose, c'est jamais positif. Alors que pour moi, un échec, c'est jamais négatif. En fait, les échecs, ça permet de se reconcentrer sur soi-même, de se poser des questions sensées. Et un échec, ça amène toujours une ouverture derrière. Et à l'instant présent, c'est pas forcément quelque chose de sympa à vivre, parce que certes, ça reste quand même peut-être quelque chose de négatif, et on est peut-être sûrement déçu. Mais à l'avenir, en fait, c'est toujours une bonne chose, parce que ça nous a appris... plein de choses, que ce soit sur la vie, sur le côté mental ou physique de certaines personnes.
Comment t'as intégré sport-études ?
Sport-études, j'ai intégré après mon collège. J'ai commencé le rugby à l'âge de 9 ans à peu près. Et en fait, c'est bête à dire, mais j'étais un peu plus grand, un peu plus costaud que les autres, donc je m'en sortais plutôt pas mal. J'étais repéré pour jouer dans l'équipe départementale, après l'équipe régionale, donc l'équipe Bretagne. Et tout ça, ça a coulé de source pour moi. Et du coup, après le collège, il y avait une volonté de partir déjà de la maison par rapport aux relations que j'avais pu avoir avec mes parents pendant toutes mes années de collège. Et du coup, je me suis tourné vers le sport-études, le rugby, parce que c'était là-dedans que je voyais l'avenir. Et c'était... le moyen le plus simple de partir de chez moi. Et du coup, je l'ai intégré en faisant des détections, notamment à Vannes, qui est le meilleur club breton. Et Grand Ouest, il y a encore La Rochelle, mais grosso modo, c'est un très bon club professionnel. Et du coup, j'ai fait les détections là-bas et je l'ai intégré très simplement, vu que j'avais déjà fait les équipes Bretagne, j'étais déjà plus ou moins repéré et pistonné par les coachs et les divers dirigeants qui encadrent tout ça.
Comment le rugby entre dans ta vie ?
J'ai un grand frère qui a 2 ans de plus. Et c'est tout bête à dire, mais quand on est le petit frère, souvent on suit le grand frère. Et ça a été clairement le cas. C'est à un moment donné, bah, alors lui il a intégré le rugby grâce à des copains qui faisaient du rugby à l'école, et du coup bah, moi je l'ai suivi, et c'est vraiment là où je me suis épanoui le plus. Avant, comme tout petit garçon, j'ai fait du foot, et le rugby m'a permis d'avoir, enfin de dépenser l'énergie nécessaire pour un bien-être personnel. Il y avait ce côté défoulement et le côté impact qui était bah, déjà pas présent au foot, mais qui a été nécessaire chez moi en fait, et je m'en suis rendu compte en le pratiquant.
Et sport-études, ça correspond à quoi exactement par rapport à cette discipline-là?
C'est-à-dire?
En fait, est-ce que tu es formé à être professionnel, et comment se passait aussi à la fois... Donc je suppose que tu avais des cours à côté et ouais. En même temps, tu avais cette pratique-là?
Ouais, c'est ça. Le sport-études, c'est un mélange d'études et de sport, comme son nom l'indique. Mais c'est quelque chose d'assez exigeant. Ça a été... pour moi, quelque chose d'incroyable. J'en sors avec des très bons souvenirs. Mais en gros, on a une quinzaine d'heures d'entraînement par semaine. Et ces heures-là, elles viennent s'ajouter aux cours. Donc, ça se fait sur la pause du midi, une heure tous les jours. Et le soir, entre 1h30 et 2h après les cours. Mais on suit en fait un cursus scolaire normal. J'étais en général. Donc, les cours en général, il y en a pas mal, et à ça venait s'ajouter toutes ces heures d'entraînement supplémentaires. Et en plus, il y avait le match le week-end, et du coup, c'est vraiment quelque chose, on va dire, de complet et de très éprouvant. C'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui, j'ai arrêté le sport-études et que finalement, bah, j'ai pas fait carrière dans le rugby en l'occurrence.
C'était un choix d'arrêter. Le sport-études?
Le sport-études, non. Parce qu'en soi, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Et ça me... Enfin, à l'heure actuelle, si je pouvais reprendre un sport-études, je pense que je le reprendrais. Après, il faut qu'il y ait des conditions. Quand j'ai commencé le sport-études, j'ai jamais fait, donc je pouvais pas avoir des attentes. Maintenant, j'en aurais. Mais ça a été un choix d'arrêter le rugby à l'issue du sport-études. J'ai arrêté pendant un an. Et ça a été personnel, lié à la dernière année. Ça s'était très bien passé, j'avais pris énormément de plaisir, mais à cause de blessures, et je prenais plus de plaisir sur le terrain. Alors c'est bizarre parce que je dis que j'ai pris du plaisir, mais que je prenais plus de plaisir sur le terrain, mais ouais, il y a une forme de un peu ras-le-bol, en fait, du sport en général, et quand on commence à être dégoûté de ça, vaut mieux arrêter avant que ce soit trop tard. Et ce qui m'a permis cette année de reprendre une licence bah, dans mon club formateur et de continuer à apprécier le sport.
Parce que, est-ce que... Donc, par le cadre des études, est-ce qu'il y a une pression constante entre passion et professionnalisation?
Il y a une pression de résultat. Après, chacun la gère comme il peut et comme il veut. Quand on est jeune, c'est rare en fait qu'on dise on gère la pression. Souvent, on la subit plus qu'autre chose. Mais s'il n'y a pas de passion, en fait, on ne peut pas faire sport-études. Parce que ça nous demande tellement de temps par semaine, tellement de sacrifices. Quand les week-ends, bah, tu te retrouves entre amis, en temps normal, bah, là en fait nous on avait un match, donc on pouvait pas faire n'importe quoi, on pouvait pas manger n'importe quoi, on pouvait pas aller se coucher à 1h tous les vendredis ou tous les samedis. C'est assez strict. Et j'ai oublié la question initiale, mais en gros, c'est exigeant au niveau des résultats. Genre, ça va pas être exigeant, enfin, il va pas y avoir une pression sur la passion. C'est vraiment au niveau des résultats, et c'est ça qui va peser le plus dans la vie personnelle.
Et donc, à la fin du lycée, tu fais le choix d'aller vers une école des beaux-arts. Pourquoi?
Ouais. Bah, en fait, tout ce qui est design d'intérieur, notamment architecture d'intérieur, cette idée-là, je l'ai depuis le collège. Depuis début collège, fin même fin d'école primaire, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Les événements de la vie font que j'étais en sport-études. Et à ce moment-là, je pensais et j'espérais au début du lycée et de mon entrée en seconde de pouvoir faire carrière, parce que c'était là-dedans que je m'épanouissais le plus. Mais il y a eu du chemin entre la seconde et la terminale. Et arrivé en terminale, quand il a fallu faire les choix... Je me suis rendu compte que ce sera pas du tout mon métier et que je préfère que ça reste un loisir pour garder justement cette passion qu'on évoquait avant. Mais du coup, il a fallu faire des choix. Et j'avais plusieurs idées en tête. Et la plus sûre pour un avenir, ça s'est traduit par ce que j'aimais déjà d'avant et ce que j'avais pas lâché, c'était le design et l'architecture. Et bon, j'avais un peu évolué, je voulais plus forcément être que architecte d'intérieur. Ça a touché un domaine plus large, mais ça a été déduit de la terminale et en fait de la réalisation du projet qui ne pourrait pas être abouti en sport-études.
Et pour revenir un peu à la question d'échec, est-ce que le fait de pas devenir professionnel dans le rugby, tu l'as vécu comme un échec ou comme une ouverture vers autre chose?
Bah, le sport études s'est super bien passé, donc je le vis pas du tout comme un échec, c'est pas un échec pour moi. Le fait de pas devenir professionnel, c'est pas non plus un échec, parce que je le dis actuellement parce que je peux avoir un peu de recul par rapport à ça. Ça fait 2 ans que ça s'est terminé, mais en fait c'était beaucoup trop de sacrifices et le rapport entre le sacrifice et le plaisir réel, il était inégal. Donc ça a été un peu aussi une libération pour moi, le fait de dire je vais pas être professionnel. Ça m'a enlevé une bonne épine du pied. Et du coup, moi, je l'ai très bien vécu. Le moment où je me suis dit, bah, j'en ferai pas mon métier, j'ai très bien vécu et ça a été pour moi ouais, quelque chose de libérateur. J'avais un peu cette pression, est-ce que je m'accroche toujours pour essayer de me professionnaliser ou est-ce que j'arrête ça? Et le fait d'avoir pris cette décision, ça m'a libéré et ça m'a permis de finir sur des bonnes notes.
Et aujourd'hui, en design, tu te sens à ta place?
Oui, si j'ai décidé de prendre ce cursus, oui, mais non, parce que c'est pas encore le bonheur que je recherche. Je sais que bah, le rugby, ça a été une source de bonheur et ça l'est toujours. Le design, c'en est nouvelle et on apprend à faire avec, on évolue avec, enfin j'évolue avec en ce moment, donc j'apprends et c'est pour l'instant une source de bonheur, mais il y a cette chose-là de pas un peu se sentir à sa place, notamment bah, venant d'un sport études, de filière scientifique, etc. Et je me demande si c'est réellement ma place et si la question.
Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu es à l'aise
Ouais,
dans ces
non, oui,
études-là?
ouais. Bah, je m'enferme pas là-dedans. Pour sûr, je me laisse encore beaucoup de liberté et notamment dans l'époque dans laquelle on vit. Sans cesse on nous rabâche, mais je pense que pas à tort en fait, je pense que c'est une bonne chose de faire quelque chose qui nous plaît. Et pour faire quelque chose qui nous plaît, il faut pas que ça nous coûte, que ce soit de l'énergie ou du mental. Et à partir du moment où ça commence à nous coûter, et ben on peut se poser cette question de est-ce que c'est vraiment notre place là où on est? Et à l'heure actuelle, ça me coûte un peu et c'est pour ça que j'ai une certaine réflexion vis-à-vis de cette place à l'école.
Ouais, parce que de ce que j'entends, pour toi, on est, enfin, toi, t'as envie de vivre d'une passion?
Ouais, pour moi ça serait l'idéal. Après, est-ce que je vais y arriver, c'est toute autre question. Au bout d'un moment, je vais bien devoir avoir des revenus pour pouvoir vivre. Et donc là, la question de est-ce que tu veux faire vraiment ta passion et gagner zéro, ou est-ce que tu veux faire un boulot, bah peut-être qui te coûte un peu, mais au final ça te permet d'avoir une vie à peu près stable. C'est pas le moment actuellement, ce sera le moment plus tard, mais c'est sûr qu'on peut pas dissocier les deux. Il faut quand même y réfléchir.
Il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi. Tu es croyant et pour toi, tout ce qui arrive arrive pour une raison. Est-ce que c'est quelque chose qui motive une philosophie de vie?
Complètement. C'est cette chose-là, c'est très récent dans ma vie. Ça fait presque 1 an où ça a vraiment pris de l'ampleur. Ça fait 3 ans où il y a un certain cap qui a été passé. Mais ça a été un chemin assez long. En fait, j'y réfléchis depuis relativement longtemps. Mais ouais, il y a ce côté où. Des fois, quand on n'a pas de réponse, là où l'être humain veut toujours chercher une réponse, bah en fait, on se retourne vers quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, et c'est assez rassurant. Mais en termes, enfin, dans la globalité, c'est quelque chose qui me pousse, on va dire, un peu à être meilleur chaque jour, à prendre soin de soi et des autres. Et enfin, dans le monde actuel, on peut que vouloir ça, entre tout ce qui se passe, etc. On va pas s'apitoyer sur notre sort, parce que nous, on est dans des situations quand même assez confortables. Mais c'est sûr que ça motive certaines actions au quotidien et certaines pensées, certains gestes.
Et donc dans ton quotidien, ça prend quelle forme? T'es pratiquant ou c'est plutôt de
Ouais.
l'ordre spirituel ou autre?
Du coup, depuis récemment, je suis de plus en plus pratiquant et j'ai la volonté de continuer d'accentuer ça. C'est passé par diverses choses. Et je continue d'apprendre chaque jour par rapport à ça, parce que l'apprentissage est long. Mais ouais, ça passe surtout par des pensées, en fait. Que ce soit des petites prières chaque jour et des gestes. Souvent, enfin, je souhaite de malheur à personne, mais des fois, sur des situations qui peuvent être agaçantes, ça peut venir nous titiller l'oreille et cette croyance-là remet un peu. Pour faire pas de métaphore humoristique, mais l'église au milieu du village, c'est quelque chose qui me dit non. Enfin, là, c'est ce que tu penses, mais ça me permet aussi de prendre beaucoup de recul sur la vie en général et dire bah là, c'est ce que tu penses parce que c'est une réaction à chaud d'un événement ou d'une situation, mais en réalité, c'était pas comme ça. Il faut pas l'être, ça va servir à rien dans la vie, ça va pas t'aider tout simplement.
Ça calme un peu cette colère que tu pouvais avoir enfant, par exemple.
Ouais, je pense que le plus gros du travail pour parler de la colère enfant, ça a été fait notamment pendant le sport-études, où en fait c'est le moment où on devient de plus en plus mature, on apprend à se construire. Le lycée c'est un moment qui a été vraiment clé pour moi et grâce au sport-études ça s'est super bien déroulé et ça permet d'être, enfin que j'ose l'espérer, quelqu'un de stable aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça s'additionne en fait ça s'additionne à ça, et c'est vrai que chercher en fait la paix intérieure continuellement, bon, ça peut être fatigant, mais quand ça l'est pas, c'est là où c'est le bonheur. C'est là où, quand on est apaisé intérieurement, ça permet en fait à être libre et à pas se soucier des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, à vraiment se focaliser sur les choses importantes de ta vie.
Donc, tu nous as précisé que c'était assez récent, cette croyance. Comment elle arrive dans ta vie?
Quand on est petit, on se pose pas trop les questions de croyance. Soit c'est nos parents qui nous obligent plus ou moins, et nous on adhère plus ou moins, et on a plus ou moins une forme de réticence vis-à-vis de ça. Moi, j'ai eu, on peut dire une chance, c'est que j'ai juste été baptisé, et mes parents n'ont pas poussé la chose plus loin. Ce qui fait que ça a vraiment été une démarche personnelle. Là où j'en ai pris conscience, c'est quand j'ai commencé à grandir, à prendre en maturité, j'ai commencé à me poser certaines questions vis-à-vis de ça, notamment liées à mon entourage, avec des personnes très pratiquantes. Et c'est vraiment l'étape du lycée où ça a été des éléments plus ou moins déclencheurs par rapport à des choses que j'ai vécues, où je me suis dit, en fait, ça me parle, ça m'appelle un peu. Et je ressens la nécessité d'approfondir ce sujet pour en avoir le cœur net, si est-ce que ça me convient vraiment. Et à l'heure actuelle, je suis en train d'approfondir et c'est pour ça que enfin, c'est pas une fin de réflexion à l'heure actuelle. C'est en cours.
Aujourd'hui, tu vis à Angers. Quels horizons t'ont apporté ces bouleversements?
Quel horizon? De l'ouverture. Aujourd'hui je suis à Angers, je suis passé par plein d'étapes, j'ai grandi à côté de Rennes, j'ai fait mon lycée à Vannes, là maintenant je fais mes études supérieures à Angers. Tout ça me construit, ça continue à me construire et je pense que une personne, peu importe l'âge qu'elle a, elle aura fini de construire sa vie quand elle sera plus de ce monde. Tu continues d'apprendre des autres gens et le fait que je suis passé par divers domaines, divers horizons. Aujourd'hui, ça m'apporte vraiment, on va dire, une stabilité. Je pense ce truc-là de tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas appris certaines choses, on ne peut pas émettre un avis. Le fait là de toucher un peu à tout, d'être passé par un sport études, par des filières scientifiques, maintenant plus dans le domaine de l'art, qui est un domaine un peu en précarité, bah en fait ça me permet d'avoir des avis et de stabiliser mes pensées. Je pense différemment de quelqu'un qui aurait été que dans le domaine de l'art, parce que j'ai vécu d'autres expériences qui n'ont rien à voir. Et ouais, ça m'apporte une stabilité.
Est-ce que, parce que quand même, c'est à la fois le sport et l'art, c'est deux milieux qui poussent à être le meilleur de toi-même. Est-ce que ça t'a poussé vers une forme de réussite aujourd'hui? Ou est-ce que tu te projettes dans quelque chose comme ça pour l'avenir?
C'est sûr que faut être le meilleur pour exister. Dans le sport, si t'es pas le meilleur, t'es pas sectionné, t'es pas retenu pour les feuilles de match. Dans l'art, si t'es pas le meilleur, t'as pas de visibilité, tu te fais pas contacter, t'as pas de projet. Dans l'avenir, ça pousse à aller vers la réussite. Et de toute manière, quand on entreprend quelque chose, c'est pour réussir. Si on n'y va pas dans un but de réussir, dans un but compétitif, ça sert à rien d'y aller. On va y aller, mais on va pas faire les choses correctement, on va les faire dans le désordre, et ça va mener à rien. Et ça va plus être démoralisant qu'autre chose. Il faut toujours nourrir cette motivation. Donc, c'est deux domaines qui sont un peu semblables sur le terme de la réussite. Sur le fait, c'est un peu une vision peut-être dure à concevoir, mais c'est marche ou crève. Si tu rentres pas dans le rang, tu t'es laissé sur le carreau. Pour le sport études, là où j'ai un peu plus de recul, c'est ce qui s'est passé ma dernière année où j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai été rapidement écarté du groupe. Parce que je pouvais pas tout simplement être compétitif et répondre aux attentes. C'est dur, mais c'est la vie en fait. C'est comme ça partout, et notamment dans ces domaines-là.
Est-ce que, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à l'enfant que tu étais?
En fait, c'est quelque chose. C'est des questions. Je pourrais répondre plein de choses à divers moments de la journée et au fil de ma vie. À l'heure actuelle, je pense que j'ai une force de caractère qui est présente et qui était déjà là quand j'étais petit. Et je me rends compte que cette force de caractère et de persuasion, elle est plutôt agréable à maîtriser dans la vie de tous les jours. Et donc, ce serait de garder ça, de le développer et d'en avoir conscience surtout dès le plus jeune âge. De cette force-là et de s'en servir à bon escient.
Merci Hector.
De rien.
Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation pour nos auditeurs, nos auditrices culturelles ou sportives?
C'est au final, ça s'est retranscrit dans tout ce que j'ai raconté. Je viens plutôt d'un domaine scientifique. Il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est La petite histoire des flocons. C'est un livre en fait qui explique... scientifiquement, comment un flocon peut se former et comment il se développe finalement. Et il y a ça se raccroche en fait un peu à l'art et en fait, c'est un mélange entre de l'art, des mathématiques, c'est plein de choses et c'est super intéressant à lire et à étudier. Et toujours un peu dans les sciences, il y a un youtubeur qui s'appelle Fulloscopie, F-O-U-L-O-Scopie. Sur YouTube, et lui il est spécialisé dans les mouvements de foule, et pareil, ça explique beaucoup de choses sur les phénomènes scientifiques, comment les foules se déplacent sans communiquer, que ce soit dans les festivals, dans les concerts, mais aussi par exemple dans un banc de poissons ou dans un nuage d'oiseaux, les tourneaux quand ils migrent, etc. Donc là c'est vraiment mon côté plus scientifique qui se raccroche, mais il y a une forme de poésie et d'art à travers ces domaines là et en fait je me rends compte que tout a un lien, c'est une toile d'araignée.
Merci Hector, merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Merci d'avoir écouté Horizon. Tu peux retrouver l'épisode sur le www.radiocampusangers.com ou sur les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.